Bonjour et bienvenue à Point de vue, l'émission 100% cinéma à Montréal. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
On l'abordait la semaine passée, maintenant c'est confirmé, The Hobbit sera bel et bien une trilogie.
Ben oui, c'est ça, ben, comme on avait dit un peu la semaine passée, moi je trouve ça magnifique en fait qu'ils fassent une adaptation allongée en fait de l'œuvre de Tolkien, parce que ce qu'on avait vu avec le Lord of the Rings, c'était vraiment qu'il effilochait, il ramenait à l'essentiel, il trouvait des raccourcis pour être capable de condenser des livres massifs dans des films de 3 heures. Là, avec The Hobbit, je pense qu'il va avoir vraiment le luxe de pouvoir s'attarder sur des détails, puis extrapoler, en fait, sur des petits segments qui, dans le livre, passent de façon assez rapide. Puis, tu sais, je suis certain que il va aller chercher des affaires de l'univers de Tolkien, vraiment, que les geeks vont faire comme « Ah, oh, il a osé faire ce lien-là » ou... Je suis sûr qu'il va comme avoir des surprises, là, un peu comme Chris Nolan fait des surprises dans les Batman, puis il joue un peu sur le côté geek des gens pour faire réagir. Ben, je pense que Peter Jackson va essayer d'aller jouer dans ces eaux-là, en fait, avec The Hobbit.
Ben, c'est sûr qu'on avait mis hâte.
C'est un geek, là.
C'est faire des méta-références à sa propre œuvre. Fait que, ouais, donc, comme tu as dit, Rémi, c'est un geek. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez hot.
Un petit détail que j'étais un peu déçu, c'est que, bon, les trois Lord of the Rings à l'époque sont sortis à Noël. Les deux premiers volets de The Hobbit sortent ce Noël et le Noël prochain, mais le troisième sortirait à l'été 2014, donc 6 mois après le deuxième volet. Bon, dans un sens, on va juste avoir la conclusion plus vite, mais dans un autre sens, pour moi, la franchise Seigneur des Anneaux, ça aurait été bien que les 6 tomes sortent à Noël. Je sais pas, c'est peut-être mon petit côté tradition.
C'est ton cadeau de Noël.
Ouais, un peu, tu sais, qu'on se fait soi-même aller au cinéma, voir un film de 3 heures épique avec des petits nains poilus.
Là, cette année, c'est quoi nos canons de Noël? Là? Il y a Eggler's... pas Eggler's Bastard, voyons, il y a Django Unchained.
Hey, oui, Django Unchained, le Fab de Pi. The Great Gatsby de Baskerville, lui, a été repoussé à l'été.
The Master, c'est quand que ça sort, ça? C'est-tu dans le coin de Noël aussi?
The Master, on sait qu'il va sortir le 14 septembre, donc un mois plus tôt que ce qu'on attendait. Il y a eu d'ailleurs une espèce de screening spécial.
Ben, c'est ça.
Comme secret, pas annoncé, organisé par le Paul Thomas Anderson. Donc, il y a déjà quelques critiques qui ont circulé sur Twitter. Et,
ah ouais?
Ben, c'est ça. Il y a du monde qui s'attendait pas à ça parce que c'est un screening de Shining dans un cinéma de répertoire. C'était un double feature avec The Master, en fait. Donc, c'était comme une surprise pour ceux qui sont allés voir The Shining. Mmh. Donc, les surprises
de même. C'est quand même un bon bonus. Tu sais, déjà que tu vas voir The Shining sur un écran géant, t'as comme la chance de voir The Master, c'est un beau petit special feature.
Ah ouais, clairement. Je les envie. Maintenant, on va aller entendre la bande sonore de Vertigo, ce film d'Alfred Hitchcock qui est maintenant, selon Sight and Sound, le meilleur film de tous les temps.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
Someone inside me, she says I must die.
A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places.
Es-tu d'accord avec ça, Vertigo numéro 1?
Ben, c'est ça. Ça l'a fait tout un choc, en fait, dans le bon. Bon, je dis un choc, je rigole un peu. Après un règne de 50 ans de Stephen King, de le voir détrôné comme ça, je pensais pas voir ça de ma vie, finalement.
Non, mais en même temps, comme. Je sais pas, pour quelque chose comme ça, who cares à un certain point? C'est juste une question d'opinion, puis il y a juste une gang de personnes qui ont décidé que. Ça, c'est rendu le meilleur film de tous les temps, mais c'est quoi le meilleur film de tous les temps? Sur quels critères?
Oui, mais en même temps, c'est cette liste-là, le propre d'être de loin le plus gros recueillement. T'sais, cette année, il y était 860 critiques puis 360 cinéastes à peu près. Là. Mes chiffres peuvent être à plus ou moins 15 personnes, mais ça fait comme 1100-1200 personnes qui votent.
Ce qu'il faut dire aussi, une particularité de ce top-là, la manière qui est faite, c'est que, bon, t'en as parlé, Pascal, les 1200 critiques soumettent un top 10. Et chaque film dans leur top 10 compte pour une voix. Et ensuite, une compilation du nombre de fois que les films ont été cités. Donc, il n'y a pas nécessairement une échelle de, mettons, ton top numéro 1, il vaut 10 points, ton numéro 2, il vaut 9 points. Non, ouais. Chacun vaut comme pour un point. Donc, Vertigo, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a le plus de monde qui pense que c'est le numéro 1 film, mais c'est le film qui a été le plus cité dans les top 10 de tout le monde.
Ouais, mais avec une marge, hein, tu sais, sur les 890 critiques, il a été cité 190 fois. contrairement à 150 fois contre Citizen Kane. Tu sais, fait que c'est quand même une marge.
Mais moi, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent expliquer ça, ce changement de garde, en fait, du trône. C'est que, premièrement, ben, il y a plusieurs critiques qui sont morts entre 2002 et 2012. Plusieurs personnes qui étaient plus âgées, qui ont connu le cinéma, qui ont peut-être connu Citizen Kane à l'époque, qui ont vu l'impact que ça a donné. Et vu qu'ils sont morts, peut-être que eux, ben, c'est eux qui étaient plus attachés à Citizen Kane. Tandis que ceux qui ont voté, c'était plus des gens que là, eux, ils ont connu Hitchcock, ils ont comme plus entendu parler de Citizen Kane sans nécessairement vivre son impact. Mm-hmm. Puis je serais pas surpris non plus que le prochain, en 2022, que Vertigo s'en aille, que ce soit un film plus récent, entre guillemets, qui prenne la place, pourquoi pas 2001, l'a-t-il l'espace, donc, qui pour l'instant est en sixième position. Donc, il y a déjà ce côté-là. L'autre côté qu'on peut expliquer, c'est que, veux pas, le Sight and Sound, ça vient du BFI, c'est britannique. Ils ont demandé à beaucoup de critiques de langue anglaise, beaucoup de critiques établies aux États-Unis et en Angleterre. Donc, j'ai l'impression que c'est normal, que ce soit conscient ou non, que Vertigo s'impose un peu comme il faut qu'il y ait un film britannique dans le top. C'est comme le plus... Ben, pas nécessairement le plus connu d'Hitchcock, mais c'est comme lui maintenant qui fait un peu l'unanimité, mm-hmm. comme étant son meilleur. C'est très drôle, hein, parce que moi, personnellement, et j'ai vu ce commentaire-là revenir souvent, c'est même pas pour moi le meilleur Hitchcock. Alors, et même pas pour moi, ben, c'est le meilleur film britannique.
Ben, en fait, tu un petit... toi, Rémi, t'es-tu un fan d'Hitchcock? J'ai rarement entendu parler d'Hitchcock, vraiment, en fait.
Moi, j'adore Hitchcock, mais... Moi, je vous dirais, en fait, que mon préféré, c'est Rear Window. Puis, c'est que j'aime tellement la tension qui se construit, mais dans un lieu fermé comme ça, là, je trouve que ça a été... vraiment, c'est un film qui ose, là, vraiment, comme... puis, un tournage en studio, en plus, mais qui simule un appartement. C'est un peu mégalomane comme projet. Puis, autant que je vois le potentiel de Vertigo, autant que... qu'il soit considéré comme son meilleur film, là. Mais je trouve que Rear Window, juste pour le concept autour, ça me fait trop tripper de regarder ça.
Ben, tu viens de mettre un point important parce que Hitchcock, là, il y a des gens qui le critiquent d'être un peu trop découpé, un peu trop placé, mais en même temps, c'est un grand cinéaste expérimental dans un sens. T'sais, des films comme Rope, clairement. Comme ce qu'il a fait en 1948 avec Rope, là, les plans séquences, il essayait de masquer les cuts à une ère où le numérique permettait pas de shooter en continu pendant une heure et demie de temps. On s'entend qu'en 35 mm, c'est le plus long que tu pouvais faire. Je pense que c'était 11 minutes, si je ne me trompe pas.
Ouais,
c'est 11 minutes, hein, un 1000 pieds. Bon. Fait que, juste, il y a aussi le film qu'il a fait, c'est Lifeboat, le film qu'il a fait tout sur un bateau. Là.
Mm-hmm.
C'est ça. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que il ramasse des histoires, puis il essaie de trouver une façon stylistique dans la forme, tu sais, de faire du jamais vu à l'écran. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis Vertigo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené vraiment une espèce de dimension. Onirique, pas métaphysique, là, quand même pas, là, parce que en tout cas, ceux qui ont vu Vertigo savent un peu là, qu'est-ce qu'il en est, mais une dimension très 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 personnelle à ce film-là, très psychanalytique aussi. Je vais en parler plus en détail parce que je l'ai revisité cette semaine, Vertigo. Mais bref, moi j'ai toujours considéré Vertigo personnellement comme un de ses meilleurs, facilement. Moi je suis pas du tout un fan de Psycho, mais parce que ça c'est souvent l'autre film que les gens citent. Moi, vous le savez, les gars, c'est lequel mon préféré de Hitch?
North by Northwest?
Non. Deuxième guess. Ouais,
tu me l'avais dit en plus, puis je m'en souviens vraiment pas.
Dial M for Murder?
Non, mais je l'aime bien, en fait, Dial M. Je trouve que c'est un de ses plus low profile, genre. C'est comme un petit film, là, vraiment, ou de nit standard, mais il est vraiment bien fait. Non, en fait, moi, c'est vraiment Notorious, le film qu'il a fait en 1946 avec c'est un hot screen couple, là, quand même. C'est comme Ingrid Bergman avec Cary Grant. Fait que, tu sais, en 1946, c'est quand même deux célébrités au sommet de leur forme, carrément, qui partagent, d'ailleurs. Puis c'est le plus romantique de Hitchcock aussi, c'est... Il y a quelque chose de très sensuel dans ce film-là. Est-ce que vous connaissez un petit peu Notorious, les gars, ou pas
pardon? Moi, je ne l'ai jamais vu, en fait.
Ouais, moi non plus, je ne suis pas le plus grand Hitchcock Phil.
OK, bon, ben, ça vaut la peine d'en parler un peu parce que c'est un film où il se passe presque rien. C'est comme, il n'y a aucun vraiment meurtre. Il n'y a pas de... Mais il y a une tension infernale. C'est une sorte d'espionnage. Tu sais, c'est Ingrid Bergman qui se ramasse dans la maison d'un gars qui fait des affaires louches. Là, en tout cas, je ne me rappelle plus en détail exactement, là, mais tu sais, bref. Puis, donc, Cary Grant, un peu, est en amour avec Ingrid Bergman, mais Cary Grant engage un peu, si tu veux, Ingrid Bergman pour aller espionner dans la maison de quelqu'un. Mais là, finalement, il faut qu'elle joue la femme du gars qu'elle espionne. Fait que ça crée une espèce de triangle amoureux un peu pervers, parce qu'elle, elle espionne le gars qui trouve des preuves pour mettre sous des verrous. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis il se passe pas grand-chose, comme j'ai dit. C'est vraiment comme... Il s'espionne, puis là, lui, il la suspecte, mais on sait pas s'il la suspecte. Puis il y a vraiment une espèce de jeu de perception très intéressant. Puis encore une fois, je ramène à Hitchcock expérimental. Ça, c'est l'expérimentation ultime. De créer de la tension avec des presque rien, c'est un coup de génie. Moi, c'est mon Hitchcock préféré, personnellement.
Mais moi, ma position sur Hitchcock, je dirais que, ben, tu l'as bien expliqué tantôt, c'est que c'est un innovateur. Hitchcock, je le vois un peu comme une espèce de professeur du cinéma qui a tout inventé, finalement. Mais j'aime mieux lire sur Hitchcock que de voir ses films. Et pour moi, l'ensemble de son œuvre est beaucoup plus importante que ses parties, que chaque film. C'est pour ça que moi, j'ai la difficulté à avoir un seul film d'Hitchcock au top, alors qu'un film comme Citizen Kane, comme 2001 Odyssée de l'espace, comme La règle du jeu, c'est vraiment des films sommes, c'est vraiment des films majeurs.
C'est ça, mais Tokyo Story, ça fait vraiment partie d'un tout aussi. Puis lui, on dirait qu'on a moins de misère à le considérer comme parmi les grands, non?
Ouais, mais en tout cas, je sais pas, j'ai la misère avec Vertigo. Mais par contre, si c'était un top des réalisateurs les plus importants, j'aurais aucune misère à placer Hitchcock soit en première position ou du moins dans le top 10. Tu sais. Donc, c'est pour ça que pour moi, de voir un film comme Vertigo, comme supposément le meilleur film de tout le temps, je trouve ça un peu particulier, mais en même temps, bon, qui suis-je pour imposer mes propres choix?
Puis, par curiosité, dans le fond, on a répondu tous les deux, mais toi, de ceux que tu as vu, Paul, en fait, c'est lequel ton préféré du maître du suspense?
Ben, moi, je dirais que Psycho quand même, parce que pour son gosse aussi, je trouve, parce qu'à l'époque, tu sais, Hitchcock, même si c'est très célèbre, il n'a jamais gagné d'Oscar de meilleur film, en fait, il a juste gagné un Oscar honorifique. Mais, tu sais, à l'époque, il était vraiment là, il roulait sur les succès, c'était comme le plus gros producteur slash réalisateur à Hollywood, ou presque. Il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, puis il a décidé de faire Psycho, un film vraiment à petit budget, en noir et blanc, avec des acteurs moins connus. Et puis, après une demi-heure du film, spoilers, j'imagine, pour ceux qui n'ont pas vu Psycho encore.
Si vous n'avez pas vu Psycho, allez l'écouter, là.
Ouais, c'est ça.
Puis aller comme vraiment plus loin dans le podcast,
gars, tuer le personnage principal après comme le premier acte, je trouvais vraiment ça encore aujourd'hui, tu sais, je trouve que c'est un film que tu peux pas le remaker comme nous l'a démontré Gus Van Sant. ça marche pas, puis c'est un film unique, c'est ça qui est le fun. Ben, dans un sens, c'est, je veux dire, Vertigo aussi, il y a des séquences hallucinantes, puis c'est un film unique aussi, puis apporter l'espèce de chemin le zoom in travel out là
pour c'est ça.
Mais je sais pas, pour moi c'est Psycho là, ça va rester sûrement ça.
Ah ouais, ok, ben coudonc. Mais tu sais,
on entend Pascal qui est pas d'accord ici.
Non, surtout la finale là, c'est tellement in your face là, tu sais, genre quand il explique la schizophrénie, ouais. Là puis t'es comme
mais justement cette espèce de scène épilogue, moi je le vois comme un vestige du studio qui a imposé ça, puis bon, ouais. Disons que je le pardonne.
Ah ouais, non, moi je trouve ça trop gros. Trop gros là. Moi mes yeux ils roulent là, je suis comme oh man.
Mais souvent qu'il savait là, je veux dire, c'est pas un cave là, il était souvent au courant de l'effet qu'il était en train de donner, puis c'était pas complètement au hasard là. S'il l'expliquait comme ça, c'est qu'il était conscient qu'il avait besoin de l'expliquer comme ça. Je sais pas où c'était imposé par le studio de faire une scène comme ça, mais en même temps, pour un film à petit budget où justement il voulait garder le plein contrôle de son film, il savait.
Puis mais moi en fait, vous savez c'est quoi la plus grande faille à mon avis de Psycho? Parce que tu dis...
La faille, c'est qu'il est sorti en même temps que Peeping Tom. Non. Tout le monde aimait mieux Peeping Tom, mais toi, t'aimes mieux. Tout le monde aimait mieux Psycho, mais toi, t'aimes mieux Peeping Tom.
Bon, non, moi, c'est connu que je préfère de loin Peeping Tom, mais ça, c'est... Non, mais c'est pas... Parce que non, ça, c'est un de mes films d'horreur ever préférés. Mais non, c'est même pas ça. C'est que oui, ça prend du gosse de tuer son personnage principal après une demi-heure, mais avec Hitchcock, puis le grand défaut d'Hitchcock, c'est que les personnages, tu t'y attaches pas, je trouve. Tu t'y attaches pas beaucoup. Fait que c'est pas comme si tu tuais un personnage que tu sais que t'étais complètement là avec elle. Puis tu sais, puis je trouve qu'il y a des raccourcis d'ailleurs dans le premier acte pour essayer qu'on empathise le plus rapidement possible avec ce personnage-là, tu sais. Mais je sais pas, je le trouve froid, Hitchcock. Je trouve que.
Ta critique est valable, mais par contre, on parle de Norman Bates comme l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire du cinéma.
Oui, c'est ça. Puis moi honnêtement, genre, je m'attache pas aux filles qui se font tuer, je m'attache plus à Norman Bates. Puis c'est ça qui est trippant, c'est que au début, il y a le build-up lui le tueur, mais en même temps, tu veux pas y croire, puis tout, puis ça y arrive dans l'ombre, puis en même temps, comme il y a tout le temps l'espèce d'ambiguïté que ça pourrait ne pas être lui aussi, là, je veux dire, on connaît tout le punch, mais ça pourrait ne pas être lui. Fait que t'essayes quand même de sympathiser, il est tellement doux, Norman Bates, mais en même temps, il y a son petit côté crush, il regarde dans le trou, dans le mur pour voir la fille, puis mais en même temps, il y a toujours cette espèce d'ambiguïté-là avec lui. Fait que moi, je pense que c'est plus le but, c'était plus de sympathiser avec le tueur que sympathiser avec les deux filles. Là.
Ouais, je comprends. Puis tu viens de soulever le meilleur point, je crois, de Psycho. C'est pas mal, Anthony Perkins. Puis, tu sais, c'est iconique, là, vraiment. Son Norman Bates, là, c'est intéressant parce que c'est facile de juste présenter un tueur ou, tu sais, comme juste une espèce de personnage immonde, puis une espèce de monstre, tu sais. Mais là, c'est comme... Tu ramènes ça, bon, t'as un, il ramène ça à de la maladie mentale, ça c'est une chose, mais juste, c'est comme il est doux, puis tu sais, c'est comme un bel homme, tu sais, un peu avec un visage un peu enfantin aussi. Fait que c'est son choix de casting, puis le jeu. Parce que, bon, Hitchcock, je le considère pas non plus comme le plus grand directeur d'acteurs qui soit. Il s'est entouré de bons comédiens, tu sais, James Stewart, il fait toujours la job. Je parlais de Cary Grant et Ingrid Bergman, tout ça. Mais on s'entend, c'est pas un réalisateur d'acteur tant que ça. Mais clairement, Anthony Perkins, c'est un tour de force qu'il fait dans Psycho. Ça, c'est indéniable.
Puis vous autres, juste une question un peu cocasse. Avez-vous vu Psycho 2, 3 et 4?
Non. Non, mais toi, oui? Ou...
Oui, je les ai toutes chez nous. J'ai pogné un box set avec les trois autres. Oh, fait man. Que si vous êtes curieux, à un moment donné, je vais vous les prêter, mais... c'est vraiment spécial de voir comment des gens essaient de suivre Hitchcock. Parce que je vous dirais que les suites à Psycho, c'est un peu comme les suites à Jaws. C'est vraiment des films inutiles, mais en même temps, tu vois qu'il y a quand même... Ils ont quand même essayé de faire quelque chose qui fonctionne. Le deuxième, il est un peu comme Jaws 2. C'est un bon film dans son genre, mais c'est juste jamais, tu peux jamais comparer ça au premier. Là. Parce que Psycho 2 fonctionne. C'est un film, c'est un slasher un peu à la Jason, un peu à la Freddy, bon, mais avec Norman Bates qui est encore là. Mais ça vient jamais avec le premier, mais ça fonctionne, ça fonctionne.
Comment c'est possible s'il était enfermé à la fin du premier Psycho?
Ouais, il est libéré, puis là, t'as encore la même actrice que dans le premier, là, qui revient, puis là, elle veut prouver qu'il est méchant, puis fait que dans le fond, elle commence à enquêter sur lui, mais elle s'en va dans sa maison, puis elle se cache, puis elle essaye de, justement, là, de montrer que Norman Bates, c'est un tueur en série, parce que là, il y a comme eu plein de preuves qui ont démenti ça, ou je sais pas trop quoi, mais c'est Vera Miles qui revient pour... qui revient dans son rôle, là, son rôle initial. Puis le troisième, qui est dirigé par Anthony Perkins, je vous dirais que j'ai aucune mémoire de celui-là. Je l'ai vu, ça fait super longtemps. Puis je me souviens que c'était vraiment pas mémorable. Je me souviens qu'il y a des sœurs dans un couvent qui se font tuer au début. C'est pas mal ça. Puis sinon, il y a un TV movie qui est le quatrième. C'est un TV movie, puis c'est Anthony Perkins qui est au téléphone puis il raconte son enfance. Fait que c'est vraiment comme un prequel, en fait, mais qui est raconté au travers de Norman Bates. Fait que, mais Anthony Perkins est là dans les quatre.
Mais c'est vrai que tu as souvent un point. Vous avez souvent un point, les gars. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais en pensant plus que Norman Bates est un peu le protagoniste, même si c'est twisted, là. Parce que... Ben, tu sais... En même temps, je veux dire, le film commence, puis tu sais, comme j'ai dit, il prend des raccourcis pour que ça soit Marion Crane, tu sais, avec son histoire avec le gars, avec l'histoire de l'argent, avec tout, tu sais. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait que je le revoie un peu plus de l'œil du tueur en série et moins de l'œil de la victime puis de l'enquête. Parce que l'enquête en tant que telle n'est pas si extraordinaire que ça, non?
Non, clairement pas, là.
C'est ça. Pour revenir au cas Vertigo, là, parce que c'est un film qui a vraiment gagné en popularité, carrément. Je veux dire, le film, dans la liste du BFI, en 62, qui était 4 ans après la sortie de Vertigo, il était pas là du tout. D'ailleurs, ça a été un échec commercial et critique à sa sortie en 58. En 72, pas là non plus. Première apparition, première mention, ça a été en 82. Ah, déjà en 92, beaucoup plus de standing. En 2002, on le voit dans le top 10. Et puis là, boum, en 2012, meilleur film de tous les temps, selon les critiques. Selon les critiques, j'insiste là-dessus. Parce que je trouve que c'est un film plus de critiques que de réalisateurs, puis j'y viens. Comme j'ai dit, les gars, je l'ai réécouté. Je l'ai revisité cette semaine. Bon, définitivement, c'est un de ses meilleurs. Moi, tu sais, c'est... est-ce que je suis d'accord avec son statut du meilleur film de Hitchcock? Comme j'ai dit, pas particulièrement. Cela dit, je pourrais facilement en convenir. T'sais. Selon mes goûts, c'est pas mon préféré, mais Pour plusieurs raisons, je comprends que ça soit considéré comme son chef-d'œuvre. Comme meilleur film de tous les temps, là, j'ai un sérieux problème avec ça. Parce que c'est vraiment un film de critique, je trouve. Parce que d'un point de vue mise en scène, à part la séquence, il y a une séquence de rêve, bon, il y a une innovation technique, Paul t'en a parlé, là, l'espèce de le vertigo effect là, qu'on appelle, que d'ailleurs Spielberg ouais. a réutilisé dans Jaws, puis que depuis a été réutilisé à outrance. Là. C'est, mm-hmm. bon, il y a une innovation technique, mais je sais pas, tu sais, tu même avec une histoire qui... Tu sais, c'est un film que tu sens qui peut avoir influencé des films comme Mulholland Drive ou d'autres films comme ça, tu sais, qui jouent un peu sur la dimension, pas de rêve, mais de d'identité, puis autour d'une persona féminine, puis de l'obsession d'un personnage. Bon, en gros, Vertigo, pour ceux qui le savent pas, donc je vais raconter le synopsis vraiment vite, mais le film ouvre de façon assez simple. C'est un policier qui, bon, le film ouvre sur une séquence où, suite à un accident, là, il est pris d'un handicap et donc d'une acrophobie, donc d'un vertige, d'une peur des hauteurs. Et cette peur des hauteurs-là va lui attirer plusieurs conséquences dans le film par la suite. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il quitte les forces de l'ordre parce que, c'est ça, là, il a vraiment eu un traumatisme. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se fait un peu sortir de sa retraite anticipée par un homme qui lui dit... il faut qu'il suive sa femme parce qu'il pense que sa femme est possédée par le fantôme d'une autre femme en fait qui se serait suicidée. Puis bon, c'est quand même des thématiques assez bold là, assez intenses pour un film de 1958. Fait que ça c'est cool. Et ensuite, après ça, au début, James Stewart, il veut rien savoir. Il pense que le gars, il est complètement tombé sur la tête, que ça n'existe pas des histoires de fantômes, que bon. Mais finalement, il décide qu'il prend le contrat. Et puis là, il suit la femme, mais là, il tombe littéralement un peu en amoureux puis obsédé de la femme qu'il poursuit. Et puis là, bon, là, j'en dirai pas plus non plus sur qu'est-ce qui se passe concernant l'enquête, concernant est-ce que c'est vraiment une histoire de fantômes ou est-ce que c'est autre chose. On dirait quasiment que je décris le synopsis d'un truc de Scooby-Doo, d'ailleurs, là. Je m'écoute parler puis ça ressemble vraiment à ça là. Mais c'est pas ça, c'est traité avec un petit peu plus de goût. Fait ce que Hitchcock a fait, qui c'est vraiment de sortir d'un carcan plus réaliste, c'est un whodunit, mais en même temps avec une dimension fantôme puis obsession, puis ça, l'enquête devient secondaire, puis le personnage, que ça fait au personnage devient principal. De là, son appellation du film peut-être le plus personnel et le plus introverti de Hitchcock, ce qui est très positif, à mon avis. Maintenant, moi, je déteste Hitchcock quand il prend des raccourcis, parce qu'il prend énormément de raccourcis de mise en scène. Tu sais, là, ce film-là, là, c'est rear projection power, c'est fou, là. On dirait que dès qu'il peut sortir les acteurs d'un lieu réel, pour les amener en studio, il fait, pis ça m'agace sérieusement. Je sais pas, là, si c'est des contraintes de studio, mais non, pas tant que ça. Des films de 1958 tournés en lieu réel, il y en a plein, pis... Ce film-là, là, on dirait que tu sens genre qu'il a été tourné en 12 jours puis que.
Ben, on le connaît comme un réalisateur super contrôlant, puis on s'entend qu'aller tourner en studio, tu peux avoir plein contrôle de tout ce que tu fais. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que tourner dans un lieu réel, c'est encore mieux, mais peut-être que dans la mégalomanie d'Hitchcock, ben justement, ça, lui, il voulait garder le contrôle sur ses acteurs, garder le contrôle sur chaque petit détail, sur chaque spot qu'ils vont installer. Fait que d'après moi, c'est beaucoup là-dessus, mais ouais, il utilise beaucoup de projections.
Puis ça m'agace un peu, tu sais, pour un film comme ça, parce que c'est un film qui met vraiment en valeur San Francisco aussi, hein. Tu sais, ce film-là, d'ailleurs, est vraiment une très, très belle carte postale de San Francisco, mais ouais. En le regardant puis en l'analysant, j'étais comme, ouais, mais OK, toutes les shots de San Francisco, c'est des shots qui sont soit faites avec clairement une doublure, parce que ça, c'est insultant aussi, comme il y a plein de shots où les acteurs sont filmés de super loin, puis tu sais que c'est sûr que c'est pas James Stewart puis c'est pas Kim Novak, là. T'es sûr et certain que c'est des doublures. Mais là, t'as un beau shot du Golden Gate Bridge, mais t'es comme, ouais, mais James Stewart, il est probablement jamais allé à San Francisco. Je suis sûr qu'ils ont shooté, genre, en Californie, en studio.
Non, d'après moi, cette scène-là, il est allé shooter directement. Parce que Hitchcock disait que... Moi, c'est une citation que j'adore d'Hitchcock, mais il dit que tu trouves ton lieu avant de trouver ton histoire.
Ouais.
Puis d'après moi, vraiment, il voulait filer le lieu sur celui-là parce que c'est... le Golden Gate Bridge, c'était vraiment une des inspirations principales du film, là, de toute la trame narrative. Puis il voulait une histoire qui se passait là-bas. Fait que moi, je pense que les shots du Golden Gate, ils ont été tournés live.
Ah oui, non, je suis sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, OK, sur un tournage de, on va dire, 30 jours, je donne un chiffre comme ça, suis sûr là, que ça a été une équipe B qui a été shootée des plans cartes postales de San Francisco, puis que les comédiens ont été peut-être à San... Et l'équipe et Hitchcock ont été à San Francisco, j'ai l'impression. Tu sais, à mon feeling, ils ont été là peut-être une semaine, tu sais, sur le lot, là. C'est ça que ça me donne comme effet. En tout cas, je peux me tromper, mais c'est l'effet que ça me donne. On sent tellement de raccourcis, là, puis de projections d'arrière, puis de comme...
Mais Hitchcock aussi, c'est un réalisateur de pré-prod. Lui, oui. Ce qu'il aime, c'est le storyboard, c'est l'histoire, c'est la narration, c'est les effets. Le jeu d'acteur, pour lui, c'est secondaire. L'improvisation, il n'y en a pas. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, il a toujours dit de, je m'emmerde sur les plateaux. Tu sais, j'aimerais ça qu'à la limite, confier le tournage à quelqu'un d'autre parce que c'est moi, ça. Mon film est déjà fait au storyboard.
Ben, c'est ça. Ça se ressent. C'est peut-être une question de sensibilité. J'aime, par contre, on aime analyser Hitchcock. Et de là où je reviens à un film de critique, on aime l'analyser. Tu sais, parce que tu sais que si jamais il fait un champ contre champ, mais que t'es en long, t'sais, mettons, t'es en longue focale ou, t'sais, ou que les personnages sont tournés de loin, ben, ah, c'est pas pareil que si, mettons, ils sont en close-up. Parce que clairement, il sait pourquoi il filme ses personnages de loin à ce moment-là dans son histoire, tu sais. Fait que là, c'est que ça en donne énormément à critiquer puis à analyser. C'est ça qui est intéressant des Hitchcock. Maintenant, est-ce que c'est un film qui t'embarque énormément? Bon, moi, je trouve que ça, c'est très personnel, mais je trouve que le premier acte est un peu long. Cela dit, Vertigo, ensuite, il t'amène dans son histoire, puis ça marche bien. Il est très, très, très fun à décortiquer, plan par plan, mais personnellement, moi, je suis de loin un plus grand fan de Stephen King. Si on a à comparer, là, je sais que c'est complètement pointless.
Mais tantôt, tu faisais un point aussi, tu disais, tu sais, comment Vertigo a pu passer d'un film qui était détesté à la base, puis qui est maintenant, pas détesté, mais qui a été, tu sais, détesté par moi déjà, puis maintenant il tombe le numéro un. Mais Citizen Kane, à sa sortie, on se rappelle que c'était la même chose, là. Genre, je vais vous lire une citation sur IMDb, en fait, là, c'est « Despite all the publicity, the film was a box office flop and was quickly consigned to the RKO vaults. » At the 1941's Academy Award, the film was booed every time one of its 9 nominations was announced. Donc, c'est vraiment, le public n'aimait pas le film de base. Donc, autant Citizen Kane que Vertigo, là. Je pense que c'est classique. Que les grands succès sont pas compris dès qu'ils sortent.
Mais puis moi, j'aimerais ça faire aussi une comparaison. Pascal, tu parlais de Citizen Kane. Moi, je comparais, peut-être pour comparer avec des réalisateurs qui sont un peu plus semblables, Powell et Pressburger,
oui.
Qui sont également des maîtres britanniques là, qui travaillaient beaucoup en studio, faisaient beaucoup de backdrop pour recréer les scènes extérieures. Puis moi, j'aime mieux le cinéma de Powell et Pressburger.
Oui, moi aussi.
Pour moi, leurs meilleurs films, là, comme The Red Shoes, oui. Black Narcissus, I Know Where I'm Going, pour moi, ça, c'est des films qui sont plus... Parce que, comme tu dis, dans Hitchcock, ça manque de folie, ça manque de... C'est trop rigoureux, c'est trop intellectuel, selon moi. Et ça manque cette espèce de petite étincelle de folie que des réalisateurs comme Powell et Pressburger, je trouve, ont pu apporter avec les productions des Archers.
Ben oui, moi, si j'ai à comparer aussi, je prends les... surtout The Red Shoes, qui est pour moi un classique là, complet. Non, c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter.
Bref. Ça fait pas mal le tour du Sight and Sound.
Oui, ça fait pas mal le tour du Sight and Sound. Juste le numéro 1, selon Stephen King, a été détrôné à deux occasions, autant du côté des critiques par Vertigo que du côté des réalisateurs par Tokyo Story. Ça, je trouve que c'est une belle surprise, par contre.
Ben, le top 10 des réalisateurs est convient plus à mes goûts personnels que le top 10 des critiques. Là.
Ouais.
On retrouve aussi Godfather sur le top 10 des réalisateurs.
Apocalypse Now, deux films de Coppola, c'est dans le top 10. Par contre, où est Bergman dans les deux listes? Aucun Bergman dans le top 50. Aucun. Ah non, Persona. Persona dans le top 50 seulement du BFI. Ça, c'est ma petite déception. Et où est Lawrence of Arabia? Il est tombé d'un film qui était dans le top 10 à 10 ans plus tard, pas dans le top 50. Ça a été une grande surprise pour moi aussi.
Ouais, là, ça, Vervia qui disparaît, c'est un peu weird, là.
C'est vraiment weird.
Puis où est Plan 9 from Outer Space? Où est-il? Hein?
Où est-il? Fait qu'en tout cas, c'est une liste qui... ça a son lot de puzzles, mais c'est que ça marque une époque, tu sais. C'est vraiment un consensus de 2012, de l'ère Internet.
Hey, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, là. Là, les deux films les plus récents, les deux seuls films de la décennie 2000, c'est In the Mood for Love et Mulholland Drive, respectivement de Wong Kar-wai et David Lynch. Selon vous, là, parce que là, c'est sûr que ça prend du recul des fois pour voter, genre c'est quoi les meilleurs films de tous les temps. Au prochain top, 2022, quel film pourrait se retrouver dans le top 50? qui date d'au moins de 2000 et plus. Est-ce qu'on va retrouver The Tree of Life dans le top 50?
Non.
Non. Non. Comme je t'ai dit,
There, will, there will be blood?
Peut-être.
Peut-être. Peut-être. Mais attends un petit peu, j'essaie de penser. Quel film que j'ai l'impression qu'il va vraiment gagner en...
Moi, je pense pas que Malick est unanime. Là. Autant Tree of Life que toutes les autres qu'il a faites, je sais pas. Je pense pas.
Ouais, Malick.
Les gens l'aiment beaucoup, là, mais.
Mais c'est parce que Malick.
Je pense pas qu'il est unanime quand même avec ses derniers films. Là.
C'est parce que l'affaire avec ça, c'est que ça prend un chef-d'œuvre consacré. Puis Malick, je pense que les gens se divisent trop parmi les autres films de Malick. Tu sais, mettons ceux qui vont aimer Tree of Life vont peut-être dire ouais, mais ok, mais j'ai préféré Thin Red Line. Ah, mais peut-être moi c'est The New World. Ah, mais peut-être moi c'est Badlands. Ah, mais peut-être moi c'est. Tu comprends? Tandis que un film comme. Un réalisateur comme Wong Kar-wai, on dirait que c'est comme plus. Son chef-d'œuvre consacré, c'est vraiment In the Mood for Love, on dirait. Tu sais, c'est comme. C'est... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se divise pas trop avec d'autres films. On dirait que les gens qui vont vouloir voter à Wong Kar-wai vont se camper du côté de son chef-d'œuvre. Même chose un peu pour Orson Welles.
Est-ce qu'il pourrait aussi expliquer la relative non-présence de Bergman?
Peut-être, parce qu'effectivement, Bergman, je pense qu'il y a. Bon, on le reconnaît comme un des grands cinéastes. Très, très, très probablement dans un top 10, si jamais le BFI avait eu affaire de. Au niveau des réalisateurs, mais tu vas avoir des gens qui vont préférer Seven Seals, d'autres qui vont préférer Persona, d'autres qui vont préférer Fanny Alexandre. Moi, personnellement, c'est Cries and Whispers, mais tu sais, effectivement, il y a tellement de films, puis il y a tellement de... Persona est peut-être un peu ça, mais vois-tu, jusque cette année, moi, je pensais que c'était Seven Seals qui était son chef-d'œuvre consacré, vois-tu, puis là, il n'est pas dans le top 50. Fait que, ouais, peut-être qu'il se divise les votes au sein des fans, tu comprends? Woody Allen aussi, tu sais. Woody Allen, il y a tellement de films. Certains vont dire Manhattan, d'autres vont dire Annie Hall, d'autres vont dire Anna et ses soeurs, d'autres vont dire Crimes and Misdemeanors.
Ou tu sais, Nolan, certains vont dire Dark Knight Rises, d'autres vont dire
Batman Begins. Ah non, moi, je suis pas capable de considérer Nolan dans le Panthéon encore. Je suis désolé. S'il avait fait d'autres films comme Memento, mais Memento a pas été surpassé encore, selon moi.
OK, donc on s'en va en 2022, en fait, pour rejaser de ça.
Ouais, c'est bon.
Triste nouvelle, ou du moins une nouvelle qui était inévitable. Chris Marker nous a quittés à l'âge vénérable de 91 ans. Donc, je sais pas, peut-être que tu veux l'introduire, Pascal, Chris Marker?
Ben ouais, ben moi pour moi, Chris Marker, c'est sans soleil, là. C'est vraiment, c'est un cinéaste expérimental, mais qui est expérimental aussi au niveau de la narration, parce qu'il fait des films quand même de fiction à travers le lot. Chris Marker, ben il a fait beaucoup, beaucoup de documentaires, de films expérimentaux. Je ne savais pas comment l'introduire personnellement, parce que je ne connais pas sa biographie plus qu'autre chose. C'est vraiment à travers ses films. Les deux plus connus sont sans doute La Jetée et Sans soleil. La Jetée qu'il a faite dans les années 60, qui a inspiré d'ailleurs le film 12 Monkeys, que Rémi t'aime beaucoup, je pense.
Ben,
moi,
oui.
C'est un bon remake, hein, quand on parlait des bons remakes. 12 Monkeys, c'en est un bon.
Mais c'est un 12 Monkeys, c'est un remake, mais très libre. Là,
c'est ça, c'est très, très, très différent. C'est ça.
C'est vraiment pas le même film, mais c'est en fait, ça, c'est ce qui est bon, d'après moi, là, de faire un remake, mais vraiment de l'interpréter à sa façon.
Exactement.
Mais c'est juste pas la même chose.
C'est ça, pas du tout. Puis c'est un espèce de film de science-fiction, mais en photomontage. Fait que ça, c'est intéressant. C'est pas un format qu'on voit énormément. Quand on pense à un bon photomontage au cinéma, je pense que vraiment La Jetée, c'est celui qui arrive dans nos têtes. Donc, un film qui est intéressant, un film d'un peu moins d'une demi-heure. Si vous voulez, en fait, connaître bien Chris Marker, Criterion a fait un DVD double avec Sans soleil et La Jetée. Sans soleil, qui est un documentaire expérimental, épistolaire, autour de lettres, de carnets. C'est un peu un carnet de voyage, mais ô combien magnifique et ô combien poétique et ô combien... stimulant intellectuellement et sensible et c'est ni plus ni moins que des meilleurs documentaires d'art et d'essai que j'ai vu de ma vie. Bref, fait que cinéaste à découvrir si vous le connaissez pas.
Parfait, donc on va passer du triste au pathétique. La programmation du Festival des films du monde vient de sortir.
Excuse-moi Paul, c'est vraiment une bonne blague.
je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez jeté un œil un peu à la programmation, les gars. En gros, bon, le film d'ouverture, c'est très sérieux ce que je vais dire, hein, y a aucune blague. Le film d'ouverture, ça s'appelle Million Dollar Crocodile. C'est un film de monstre chinois mettant en scène un crocodile de 11 mètres.
OK.
Et le film de clôture, c'est le nouveau chef-d'œuvre de James Hutt, qui nous a donné Brisonis et Lucky Luke, entre autres.
Mm-hmm. Oh non!
Un film français qui s'appelle Un bonheur n'arrive jamais seul, qui met en vedette Gad Elmaleh.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est les deux grosses pointures du Festival des films du monde.
Million Dollar Crocodile, ça a l'air d'un film de minuit à Fantasia.
Il n'y a pas de page IMDb.
Ça a l'air d'un film sérieux que tu présentes à ce festival-là.
Rémi, il n'y a pas de page IMDb. Il n'y a même pas de page sur IMDb.
Non, je sais.
Il y a Wikipédia et un trailer sur YouTube. Là.
J'ai mis le trailer d'ailleurs sur la page Facebook de point de vue. Mais.
C'est peut-être drôle. Là. C'est peut-être que ça marche pour ouvrir un festival.
Non, mais tu sais, un film de monde, ça peut marcher. Tu sais, je veux dire, mettons que ça avait été The Host, là, mettons qu'on se revient en 2006, puis que le Festival des films du monde annonçait que The Host était le film d'ouverture. Malade! Jun Ho-bung, film de monstre coréen, tout ça, dans un cinéma qui...
Mais encore, à l'époque, on ne le connaissait pas, donc...
Oui, non, c'est sûr, en même temps, The Host, on aurait chialé autant, genre... Super bon ou pas bon du tout, c'est juste un film de monstre qui ouvre ce festival-là, c'est juste pas sérieux. Mm-hmm. On dirait que ça perd son... Puis le pire, c'est que moi, j'étais un fan, vous le savez, j'étais un fan de Fantasia, j'étais un fan de films de monstres, justement, j'adore ça. Mais ouvrir un festival avec ça, hey.
Voilà, surtout un festival qui n'est pas du tout destiné au même public que Fantasia, là, tu sais.
C'est ça.
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée pourquoi ils programment ça comme film d'ouverture?
Pour faire compétition à Fantasia ou...
Non, en fait, c'est qu'ils tiennent cette année la première semaine du cinéma chinois à Montréal. C'est organisé par la FFM. C'est dans le cadre du festival. Et c'est une espèce de... Pour courtiser, en fait, le marché chinois, ils veulent inviter beaucoup de producteurs, il va y avoir beaucoup de cinéastes chinois qui vont venir. Donc, c'est une espèce de manière de les courtiser, finalement.
Ah ouais.
Puis là, un film du réalisateur de Brise de Nice, James Hutt.
Ouais.
C'est ça aussi, genre, moi, j'ai vu deux films de ce gars-là. Ben, j'ai vu Brise de Nice, qui est assez léger, hein, comme...
Ouais, ça clips... va, là, tu sais.
Voir des clips de Brise de Nice sur Internet, c'est drôle, mais un film complet, à un moment donné, on comprend vite c'est quoi, là.
Exactement.
Puis Lucky Luke, je sais pas si tu l'as vu, moi, je l'ai vu, puis j'étais assez déçu, là. Je trouvais ça cool comme idée de mettre Jean Dujardin dans le rôle de Lucky Luke, mais...
Puis de le faire
finalement, avec c'est vraiment aussi. Pas très bon. C'est un film à gros budget français, mais... Qui mène vraiment à rien, puis qui est juste comme une espèce de mishmash de toutes sortes d'affaires de Lucky Luke. Il y a comme pas de vraie ligne directrice. Il me semble, à mon souvenir, il y avait même pas les Dalton dedans, parce qu'il avait fait précédemment un film sur les Dalton avec Judor et Ramsey, là. Donc je pense qu'ils ont osé ne pas mettre de justement dans le film les Dalton. Fait que c'était juste un peu n'importe quoi, ce film-là. Puis là, ben, son film clôt le festival. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, le film, d'ailleurs, est sur IMDb. Il est sorti, en fait, en juin en France. Pour l'instant, il a une très respectable cote de 5,8 sur 10.
Mais, puis en plus, c'est ça. En plus, comme tu dis, c'est pas comme si c'était une première ni rien, là.
C'est ça, il est sorti en France.
C'est ça. Non, mais, ben, regarde... En tout cas...
Ça va faire la vedette. Ils vont regarder le Malé à Montréal.
Oh. Ouais, c'est ça. Ben, y a-tu des trucs un peu organisés autour? Parce que la programmation, c'est un peu. C'est encore une fois la quantité sur la qualité. Mais est-ce qu'il va y avoir au moins des événements intéressants, des classes de maîtres intéressantes, qu'est-ce qui se passe un peu en périphérie du FFM?
Écoute, bonne question. J'ai pas full checké. C'est quoi les classes de maîtres? J'ai vu qu'il y en avait. Je t'avouerais que. Bon, j'en ai vu une il y a une. Deux ans, je crois, c'était Gérard Depardieu, en fait, qui est comme un ami très proche de Serge Logic, le président du festival. Bon, c'est intéressant de voir un géant du cinéma au Festival des films du monde. Puis je veux dire, Gérard Depardieu, bon, même si dans les dernières années, c'est plus ce que c'était, c'est pour moi, c'est une icône du cinéma. Ce serait pareil que de voir Robert De Niro. Je veux dire, oui, OK, ses derniers films sont un peu mauvais, mais t'as quand même une légende devant toi. Puis il était très drôle, il racontait plein d'anecdotes. Mais donc oui, dans le fond, les classes de maître que le Festival des films du monde organise à part du temps, c'est très bien. Je vois ici une leçon de cinéma de Volker Schlondorf.
Ah, quand même, ça c'est le Tin Drum. C'est un film qui a gagné la Palme d'Or en 79. Il a fait... C'est pas un réalisateur extraordinaire, mais c'est un espèce de réalisateur qui faisait partie, là, figure de proue du renouveau du cinéma allemand. Les années 70, avec Fassbinder et Herzog. Non, OK, ça, c'est cool, par exemple. Ça
devrait être vraiment, je pense, l'un des points forts du festival, parce que c'est tout le temps bien quand il y a des invités. Ce qui est triste aussi, le festival, c'est qu'il s'écroule en année. Il y a de moins en moins d'invités, il y a de moins en moins de classes de maîtres, il n'y a pas d'enthousiasme. Je ne sais pas si vous allez beaucoup au Festival des films du monde dans les dernières années, si vous êtes
beaucoup allé.
Mais c'est un peu triste, l'ambiance qu'il y a, je trouve. Puis, tu sais, comme là, le Festival des films du monde, en chiffres, c'est 432 films, dont 212 longs-métrages. Mais on check la liste qui est qui est absolument gigantesque en quantité. Puis moi, il y a à peu près rien qui me fait envie. Il y a comme, soit c'est totalement des inconnus, comme des cinéastes que j'ai jamais entendu parler, qui ont jamais joué dans aucun autre festival ou qui sont venus à mon attention, ou soit c'est des cinéastes ou des films tellement mineurs que je vais y aller si j'ai le temps, parce que, tu sais, je travaille au festival puis que j'aurais pas à payer, mais ça donne pas envie.
Moi, je t'avoue que je suis allé juste une fois à ce festival-là, puis c'était l'année dernière pour aller voir The Artist, parce que je voulais absolument le voir en première, parce que j'avais hâte de le voir. Mais sinon, je suis jamais allé. Autant que je suis fan de Fantasia, autant que ça, c'est comme vraiment un festival que j'ai aucun intérêt. Puis même que c'était drôle, le public, c'était vraiment des personnes âgées.
Ah, mais ça, c'est typique du Festival des films du monde. C'est des gens, en fait, le Festival des films du monde se repose sur son passé, puis bon, j'ai déjà assez parlé du Festival des films du monde dans un autre podcast.
On avait déjà eu, c'est ça.
Mais c'est ça, comme l'année passée, oui, il y avait l'artiste, moi aussi, je suis allé le voir, c'était formidable, un film super, la salle impériale, c'était vraiment une belle salle pour écouter un film. Donc ça, il n'y a rien, il n'y a pas de reproche là-dessus, mais c'est à peu près le seul événement vraiment qui a fait lever, j'ai l'impression, qui a fait que les gens se sont déplacés, puis que... Là, il y a peut-être un film que j'ai hâte en particulier que je vais parler. On avait déjà un peu discuté au podcast, c'est Seven Days in Havana, donc 7 jours à la Havane. C'est un film collectif mettant... chaque réalisateur réalise une journée de la semaine. Donc, une semaine en Havane avec des réalisateurs comme Pablo Trapero, Benicio del Toro ou encore Gaspar Noé. Laurent Cantet aussi, qui fait un des segments. Donc moi, ça, je pense, peut-être être un des moments forts du festival. Mais mis à part ça... c'est des films qui sont allés dans aucun autre festival, qui iront dans aucun autre festival. On parlait aussi, c'est intéressant, j'ai lu une chronique de Marc Cassivi. Bon, je suis pas toujours d'accord avec M. Cassivi, mais là, il disait justement, tu sais, le Festival des films du monde, il pourrait au moins avoir beaucoup de films québécois. Mais là, il y a deux longs-métrages québécois au festival.
Mais je pense que c'est parce que les Québécois connaissent la réputation du FFM. Parce que là, vois-tu, tu vas prioriser le Toronto, évidemment. Parce que là, d'ailleurs, c'est ça, là, il y a eu des nouvelles de Toronto. Je pense qu'ils ont, ne serait-ce que les courts-métrages, du moins, les courts-métrages ont été présentés.
Ouais.
Puis on a su quel long-métrage. Il y a le Inch'Allah d'Anaïs Barreau-Lavalette, puis Liverpool va être, entre autres, au TIFF. Il y a même d'autres films québécois, là, si je ne me trompe pas.
Camion, Laurence Anyways, oui, Bestiaire, Rebelle, ainsi que la première mondiale de Tout ce que tu possèdes de Bernard Raymond.
Ouais, c'est ça, bon, c'est ça, exactement, vois-tu. Mais tous ces films-là, ils iront pas au FFM tout de suite après. C'est ça qui est drôle. Ils vont peut-être aller au FNC, mais pas au FFM, vois-tu. Parce que le FNC prendra jamais rien qui est passé au FFM. Fait que je pense que on a clairement une décision de la part des cinéastes. C'est pas de la part du... Moi, je suis sûr que c'est pas le FFM qui décide de couper les films québécois. Je pense que c'est juste les cinéastes qui l'envoient pas au FFM, carrément.
Ouais.
En tout cas, je pourrais me tromper, mais moi, c'est le feeling que j'ai. Qu'ils vont prioriser les premières au FNC.
Donc, bref. C'est le Festival des films du monde. Et puis, tu sais, il y a eu la grosse nouvelle. Passe gratuite pour tous les étudiants en journalisme et en cinéma. Moi, j'ai toujours trouvé ça que c'est un move ridicule. T'sais. Dans vie, il n'y a rien de gratuit. T'sais. Je veux dire, est-ce que tu serais intéressé à aller dans un restaurant qui te donne la bouffe? T'sais? Bon, tu vas aller goûter, mais genre, c'est un mauvais signe quand on te donne de quoi, tu sais. Tu comprends-tu?
Ben oui, puis c'est justement, eux autres, ben, on en a déjà parlé, mais c'est pour se garder... garder leur réputation que il y a tellement de public qui viennent à notre festival, donc ils peuvent avoir plus de bourses au travers de ça.
Ouais. Mais moi je suis convaincu là. Mais moi je suis convaincu que mes amis, là, ceux que je connais qui sont allés chercher des passes, qui ont demandé leur accréditation, je suis convaincu qu'ils vont aller voir une couple de films, mais qu'ils passeront pas leurs 10 jours au festival.
Non, c'est sûr. Hein.
Moi je préfère payer pour avoir une bonne programmation que tu me donnes une passe gratuite.
Ouais. Donc... non, mais c'est des FFM, qu'est-ce que je te dis?
Donc bref, ça clôt notre immense segment d'actualité cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Finalement, c'était aussi la fin de Fantasia. Ils ont remis d'ailleurs le prix du meilleur film, le prix Cheval Noir, à Doomsday Book.
Mm-hmm.
Donc c'était un film de 3 courts-métrages réalisé par 2 Coréens, Yoon Sing-pung et Kim Ji-won. Ça, je suis un peu surpris qu'on donne le meilleur film à une espèce d'anthologie de 3 courts-métrages. En même temps, c'est bien, j'ai pas vu le film, ça doit être très bon. Est-ce que vous l'avez vu, les gars, Doomsday Book, non?
Non, je l'ai pas vu. Ça avait l'air super bon, effectivement. Là. J'avais vu le trailer, mais encore une fois, nous autres, on est en préparation assez intense pour un tournage, puis je pense qu'on a perdu un peu le fil de Fantasia. Là. Moi, d'habitude, j'ai passé de mon ratio de 30 films par année à 6 cette année. Là. Donc, je me sens comme mal envers moi-même. J'ai quand même réussi à voir 4 films cette semaine. Donc, je suis content pour ça. Ça a quand même bien roulé, mais...
Ouais, donc c'est quoi que tu as vu cette semaine?
Donc oui, cette semaine, j'ai vu 4 films. J'ai en un que je vais essayer d'éviter, ça s'appelait White, puis il y avait quelque chose d'autre après le titre dans le titre, mais je m'en souviens même pas tellement, ça m'a pas fait lever. J'ai vu A Fantastic Fear of Everything. Je vais passer vite dessus. Deux mots, Simon Pegg, c'est that's it, c'est vraiment là. Simon Pegg fait le film, puis je pense que c'est la raison de voir ce film-là. C'est un film un peu dans un ton d'un vieux Tim Burton, puis c'est peut-être ça qui m'a vraiment accroché. La première partie du film, c'est Simon Pegg qui est seul dans son appartement, puis le film s'appelle Fantastic Fear of Everything, donc c'est vraiment Simon Pegg qui a peur de tout dans son appartement. Il voit des ombres, il s'imagine des cadavres, il vire complètement fou, puis c'est vraiment... Je pense que c'est la partie du film qui marche le mieux. Rendu au milieu, il y a vraiment une grosse tournure d'événements, puis il y a plein d'autres personnages qui commencent à rentrer, mais c'est comme au milieu du film. Puis je trouvais qu'à ce moment-là, on commençait à essayer de creuser un peu trop, puis de changer ce qui fonctionnait. J'aurais pris un huis clos avec Simon Pegg, un huis clos d'une heure et demie, je l'aurais pris volontiers. C'est vraiment Simon Pegg qui fait le film. Comme je vous dis, c'est peut-être quand on tombe dans la touche beurre épais avec plein de personnages que là, ça commence à s'effriter. Mais ça vaut quand même la peine. Je le recommande pour ceux qui... Pour les amateurs de Simon Pegg, en fait, là, je pense que moi, je suis vraiment fan. Là. À chaque fois qu'il fait quelque chose, je suis vraiment vendu. Là. Souvent, les films très mauvais qui sortent avec lui, il y en a eu pas beaucoup là, qui sont super mauvais. Mais par exemple, il y avait How to Lose Friends and Alienate People qui a vraiment pas marché. Mais moi, je l'ai écouté avec un peu de... Bon, je m'attendais à rien vu que j'avais lu les critiques, mais Simon Pegg fait le film encore une fois. Je pense que Simon Pegg, c'est vraiment un génie comique pour vraiment l'idée des films comme ça.
Puis c'est dur de pas aimer Simon Pegg. C'est comme, tu sais, autant il y a plein de monde qui peuvent, tu sais, Will Ferrell, ou il y a plein de monde qui vont pas aimer Ben Stiller. Moi, personnellement, j'aime bien Ben Stiller. Will Ferrell, j'ai un peu plus de misère, mais tu sais, ou Zach Galifianakis, là, c'est... Pis d'ailleurs, ça, le film avec Will Ferrell, là, ça sort bientôt, ça le film là, sur la campagne, on est comme inondé de pubs. C'est
la campagne.
Ouais, c'est ça, mais on est inondé de pubs. C'est genre, le marketing de ce film-là est extrême. En tout cas, c'était juste une micro-parenthèse. Mais je pense que c'est le propre de la plupart des comiques de polariser. Tu sais, Jim Carrey non plus, c'est vraiment pas tout le monde. C'est comme tu l'adores ou tu le détestes quasiment. Là. Mais on dirait que Simon Pegg, c'est comme. Tout le monde avec qui je parle aime Simon Pegg. C'est vraiment.
Il écrit son matériel, hein, donc il passe beaucoup, beaucoup de temps à co-scénariser les films la plupart du temps. Donc je pense que c'est là aussi sa force, qu'il passe beaucoup de temps à élaborer ses personnages, à écrire des bonnes répliques, tout ça.
Oui, il campe super bien ses personnages, puis tu sais, Shaun of the Dead, qui est le film qui l'a fait connaître, c'est un film aussi qui est assez unanime. Là. Je connais des gens qui n'aiment pas les films d'horreur, qui n'aiment pas les films de zombies, mais qui aiment Shaun of the Dead. C'est des films vraiment, bon, je dirais pas pour tout le monde, là, mais tu sais, presque. Là, les gens embarquent à deux pieds dans ces films-là. Puis
Non, mais justement, c'est comme le film d'horreur slash comique que tu peux faire écouter vraiment à toute ta famille.
Et que tu peux aussi considérer comme un grand film. Et que tu peux aussi essayer d'être objectif puis de dire, voici un excellent film. Ça va clairement au-delà de la simple pastiche de film de zombies qui utilise les conventions pour faire rire, tout ça. Non, c'est un film avec un film unique, avec sa façon unique de traiter les choses, en utilisant les conventions, oui, mais écoute, Shaun of the Dead, c'est Shaun of the Dead, puis on la voit l'influence d'Edgar Wright, on la voit dans toutes les comédies aujourd'hui.
Mais Fantastic Fear of Everything, c'est vraiment ça, parce que si Simon Pegg n'était pas là, le film serait pas si bon. Mais quand même, il y a des super bons gags, le visuel est vraiment intéressant, c'est très, très cartoonish, comme je disais, un peu Tim Burton, les premiers Tim Burton, Beetlejuice, l'espèce de touche, le mélange d'horreur puis de comédie, ça marche, puis c'est... Il y a des bons punchs, des super bons gags, mais c'est Simon Pegg qui rehausse le tout. Si ça avait été n'importe quel autre acteur, ça n'aurait pas marché. Donc c'est ça, je suis passé vite sur le synopsis, mais c'est Simon Pegg qui a peur de tout, puis qui essaie de surmonter ses peurs. Puis bon, au milieu du film, il y a une romance qui commence à s'installer, rencontre une fille, mais c'est vraiment comme au milieu du film qu'il y a comme des points tournants. Mais c'est ça, voilà, ça c'est pas mal ma critique Rémi. Très très brève pour ce film-là.
Rémi, j'ai une chose à dire.
Vas-y.
Objection!
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 Objection! Objection! Donc, ça nous fait passer au film Ace Attorney de Takeshi Miike.
Oh, man.
Pascal, ben, tu peux peut-être te laisser l'introduire. On est allé le voir ensemble.
Génial! Moi, c'est le meilleur film que j'ai vu à Fantasia cette année.
Sur les 4 films que tu as vus?
Ouais, des 5 films que j'ai vus. C'est vrai, je n'ai pas vu beaucoup parce que, comme Rémi aussi, on justifie, mais on manque un peu de temps ces temps-ci. Mais non, franchement. C'est du gros calibre.
Vous rattraperez au FFM.
Ouais, c'est ça. OK, Takeshi Miike, on en a parlé la semaine passée. Moi, Takeshi Miike, j'ai vraiment une espèce de regain d'intérêt pour ce cinéaste-là. Comme j'ai parlé, les 13 assassins, sérieusement, là, j'y pense encore. Quel film coup de poing. Je vous le conseille, les gars, là, c'est vraiment, 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 vraiment un beau... T'sais, surtout toi, Paul, là, t'es un gros fan de films asiatiques, là, tout ça. Tu vas triper. Tu connais les conventions de films de samouraï. Rémi aussi, là, quoique, là, c'est vraiment pas limitatif, mais vous allez triper. 13 assassins, magnifique. Bon, est-ce que c'est aussi.
Et dans 13 avocats.
Ah, ouais, c'est ça. Et donc, Ace Attorney, est-ce qu'on peut dire, tant qu'à parler de liste de films ever, est-ce que ce serait la meilleure adaptation d'un film de jeu vidéo ever, Rémi?
Vite, probablement.
Probablement dur comme critère. Là,
non, je sais.
Non, mais il me semble qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis, qui sortaient quand même du contexte du jeu vidéo. Mais ouais, c'est sûr que c'est une des meilleures adaptations.
Wow.
Puis c'est drôle, moi, après le film, en plus, j'étais dans l'autobus, puis j'entendais des geeks du jeu vidéo en parler, puis comparaient les jeux au film. Bon, il y avait des petites déceptions, il y avait des trucs qu'ils n'ont pas réussi à intégrer dans le film, mais quand même, ça semble. D'après ces gens-là que j'ai écouté d'une oreille de loin, là, que le film est quand même assez fidèle au jeu.
Tellement douteux.
Il y avait des gags, vraiment, des fois des gags que moi j'ai pas ri, que je comprenais pas, mais tout le monde dans la salle qui ont joué au jeu vidéo riait parce que ça avait l'air d'être des références au jeu. Donc en plus d'être un film que moi j'ai pu apprécier en tant que juste spectateur du film et non un amateur de jeu vidéo, les fans en plus ont eu l'air de vraiment apprécier le film, tu sais, comme adaptation.
Ouais, exact.
Donc, ouais, probablement que ça, c'est vraiment une des meilleures adaptations.
Dynamique. C'est un film de 2h15, puis il paraît que c'est basé sur des vrais cases, sur des vrais cas du jeu vidéo, hein, d'ailleurs.
Des vrais cas du jeu vidéo, ouais, de la fausse, non?
Ouais, des vrais faux cas du vrai jeu faux, là. En tout cas, puis, non, c'est ça, mais c'est. Puis évidemment, ils ont probablement brodé au-delà de ça, parce que le film, c'est vraiment deux qui sont liés, mais c'est vraiment autour de deux showdowns, là, deux espèces de duels d'avocats. Parce que c'est quoi? C'est une espèce de film qui utilise les conventions du courtroom drama, donc très, très américain à la base, mais complètement viré sur le top, là, c'est suracide, c'est hein, quelque chose. C'est comme une arène, t'sais. D'ailleurs, même comment qui est designé la cour, comment qu'elle est, comment le set est designé dans le film, c'est comme une arène, là, complètement. Même d'ailleurs, il y a des blagues de ça, c'est comme les gens, ils achètent des tickets comme t'achètes des tickets pour aller au cinéma, c'est comme ils vont voir des avocats se faire la bataille, quasiment. Là. Et puis, on pourrait vous parler vraiment des enquêtes, mais c'est pas tant ça que juste l'espèce de feeling hyper drôle, là. C'est hyper comique, hyper dynamique, le rythme est très soutenu. Un film de 2h15, qu'il y paraisse pas, peut-être un petit peu à la fin, peut-être un petit peu, je sais pas, toi Rémi, qu'est-ce que t'as pensé là, à la fin?
Il y a tellement de revirements. J'ai vraiment embarqué en fait, ouais. C'est sûr que la fin, il y a beaucoup de fins, là, comme on
ouais, c'est dire, ça.
Là, le film c'est finit ça. Souvent.
Le film finit souvent, ouais, c'est ça.
à un moment donné, ça s'étire 2h15 pour un film bonbon comme ça, c'est quand même long. Bon, c'est long, mais en même temps, c'est le fun tout le long, ça, fait, c'est pas vraiment un problème. Là.
Mais moi, là, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai pas encore vu le film malheureusement, mais vraiment, je trouve que ce qui faisait la force des jeux vidéo, c'était les twists L'humour. Les plus improbables possibles à tout bout de champ. Est-ce qu'il y a vraiment ça dans le film? Là? Vraiment des twists qui changent complètement un personnage ou une situation?
Ben là, mais hein. Tu sais, je veux pas vendre de punch, mais des fois, il y a tellement du monde qui sont convoqués à la barre, puis ça n'a aucun sens. Faut que vous le voyez, j'ai même pas envie de dire qu'est-ce qui se passe, puis comme
quel genre. Donne-moi un exemple de qu'est-ce qui peut se passer dans le film.
Ben non, mais tu sais, exemple, il y a comme des fantômes ou des affaires comme ça, puis tu sais, c'est pas standard là, d'amener, d'interroger. Bon, est-ce qu'on le dit, Rémi? Non, faut pas le dire. Faut pas le dire qu'est-ce qui est interrogé à la fin. On peut comme pas, hein?
Non, je pense qu'on va garder la surprise. Là.
On peut pas le dire, Paul, mais il y a vraiment, vraiment des affaires.
Disons que c'est pas juste humain ce qui est interrogé, donc on peut vraiment aller assez loin dans les cas. Puis, tu sais, justement, l'humour, c'est très super visuel parce que juste au début du film, le premier cas que tu as en cours, il y a juste des cuts sur les personnages, puis le monde riait juste à voir les personnages.
Ouais.
Comme le juge qui a comme une grosse barbe blanche, qui est vraiment, je pense que c'est le même que dans les jeux vidéo, justement, là. Grosse barbe blanche. Ben, tu sais, tu le vois, puis c'est tellement caricatural, puis tellement hors de toute réalité là, que tu peux pas t'empêcher de rire.
C'est essentiellement comique.
Le personnage lui-même est drôle. Il a même pas dit un mot, puis il est déjà drôle.
C'est ça, c'est essentiellement comique. Le setup est comique, le casting est comique, les coiffures,
la façon que c'est tourné aussi, il y a des mouvements de caméra un peu. Tu sais, on pourrait quasiment comparer ça à Scott Pilgrim.
C'est vraiment du Edgar Wright.
Des mouvements de caméra vraiment radicaux avec qui mêlent toutes sortes de. De technique, tourner autour des personnages mais avec des accélérés, puis des grosses shots de grue, des espèces de set-up avec du 3D là, vraiment dans la cour. Là, t'as vraiment des. À un certain point, t'as une espèce de gros mécanisme avec plein de d'engrenages qui descend, puis c'est dans le fond, c'est le canon qui projette les images pour montrer les preuves, mais c'est tellement trop élaboré pour ce que c'est.
Drôle.
Donc, vraiment, là, ils mettent vraiment le paquet sur le visuel, puis. T'sais, comment prendre un courtroom drama puis vraiment le rendre sur acide là?
Ben, il a énergisé carrément le genre, tu sais. Un genre que souvent c'est assez posé, tu sais, on parle à Beto Anatomy of a Murder, des films comme ça. Tu sais, c'est comme ça prend le temps d'élaborer un peu ses affaires puis les twists sont très calculés. Ici non là, on sort un twist là de nulle part puis on pardonne ça là. Tu sais, il y a tel élément qu'on savait pas puis qui arrive de nulle part que généralement c'est des faiblesses scénaristiques de faire ça. T'sais, d'arriver avec un élément complètement, c'est ça, le saugrenu, puis de l'insérer dans ton scénario, c'est souvent considéré comme des failles au scénario. Mais dans ce film-là, on les pardonne parce que ça sert le côté comique.
Parce que c'est très conscient aussi, c'est très appuyé. Oui.
Carrément. Fait que non, en tout cas, bref, Ace Attorney, Takashi Miike, ça va être un film qui va être distribué, c'est sûr et certain. Vous allez le retrouver en DVD, on ne sait pas quand. Moi, j'ai même l'impression qu'il va être en salle. Probablement au AMC, on sait pas encore quand il sort.
Au cinéma du parc cinéma aussi, du c'est le genre de place où il pourrait passer.
Mais AMC, en fait, il faut appeler ça le forum.
Ouais, oui, le forum, désolé.
Ça s'appelle plus l'AMC?
Non, mais ce cinéma-là a été vendu à Cineplex, donc maintenant c'est comme le Cineplex Forum.
Ouais.
Oh my god, ok, je savais vraiment pas. Venez de m'apprendre quelque chose. Là.
Ben, ouais. C'est comme.
Mais bref, pour revenir à Takashi Miike, c'est un cinéaste finalement qu'on n'est pas capable de mettre dans une catégorie, dans un genre. C'est un cinéaste vraiment touche à tout.
Ben ouais. Mais moi, entre ça et 13 Assassins, là, en 3 semaines, j'ai réécouté peut-être ces 2 meilleurs films, qui sont, à mon sens, les 2 meilleurs. Puis moi, comme je te dis, c'est un revirement. C'était pas un cinéaste que j'aimais particulièrement. Puis là, on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il s'amuse, puis que c'est communicatif, puis j'adore. Bref, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui récemment.
D'ailleurs, est-ce que vous savez, c'est avec quoi, l'un de ses prochains films?
Non.
Non.
Parce que j'ai vu une bande-annonce, bon, en japonais seulement, donc je l'ai pas mis sur la page de point de vue. Mais il s'attaque à un projet qui va sortir en 2013 au Japon, peut-être en 2014 chez nous, peut-être fin 2013, peut-être au prochain Fantasia. C'est un projet qui rappelle un peu Battle Royale dans l'esprit. C'est l'histoire d'un professeur de jeunes étudiants adolescents qui est en fait un tueur en série. Et lorsque l'un des élèves s'en rend compte, il doit éliminer toute la classe. Donc, ça me semble vraiment un projet fait sur mesure pour Takashi Miike. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ça.
Ouais, ça me fait penser un peu à un film japonais que j'avais vu au FNC il y a 2 ans, qui s'appelle Confession.
Mm-hmm.
J'avais vraiment pas aimé, mais ben non, je sais que ça a l'air, j'avais trouvé ça moyen. Là. J'avais trouvé, encore une fois, ben, ce que je critique à beaucoup de films japonais, des fois, qui on dirait qu'ils forcent des twist endings, mais tu sais, c'est tellement. Ça me semble tellement forcé des fois au sein d'un scénario que, en tout cas, moi, dans Confession, j'avais pas particulièrement aimé, mais je sais que c'est un film qui a quand même un certain statut. Mais bref, oui, ok, mais Takashi Miike à la barre d'un film comme ça, ah, définitivement.
Donc voilà, ça fait le tour du festival Fantasia. On a bien aimé notre expérience.
Il en reste un. Il reste dans le ventre du dragon qu'il faut vraiment parler.
Dans le ventre du dragon, Dave Simon.
Donc oui, c'est l'autre film qu'on a vu ensemble, Pascal et moi. Puis c'est vraiment important d'en parler, en fait, parce que c'est un classique québécois qui a quand même été oublié. C'est un film de 89, mais qui a fait un gros succès à l'époque. À une époque où on pensait que le cinéma de genre, c'était vraiment pas un cinéma propre au Québec, mais ça a fait au-dessus d'un million au box-office québécois. Puis... ça c'est jamais sorti en DVD. Puis là, dernièrement, il y a le groupe Éléphant, en fait, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est une filiale de... bon, c'est une filiale de Québécois. Je suis désolé de parler du mal comme ça, mais c'est... en tout cas, le projet est vraiment intéressant, Éléphant, parce qu'ils prennent des classiques québécois, ils restaurent en numérique. Puis les restaurants, ils font une superbe job parce que vraiment, dans le vent du dragon, la copie stuff, qu'on a vue, la copie restaurée était vraiment parfaite, parfaite, puis... aucun défaut. Ça a vraiment l'air d'un film qui sort directement.
Oh, c'était vraiment, vraiment très beau.
Ben, ce qui vient juste de sortir, c'était vraiment une copie parfaite, là.
Ouais, exact.
Puis vraiment, ce film-là il m'a jeté à terre parce que c'est un film qui a été un peu oublié dans le sens qu'il n'y a pas de sortie DVD. La seule façon de le voir, c'est en VHS. Puis là, de voir ça comme ça sur grand écran, dans sa pleine résolution, c'était vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est vraiment un film à voir pour les amateurs de films de genre, mais aussi pour les amateurs de cinéma québécois. Puis pour n'importe qui, en fait, parce que c'est juste un bon film.
Ouais, c'est ça.
Ça prend les conventions du film de genre, mais ça le transporte vraiment ici à Montréal. Fait que c'est comique, c'est pas un film de genre épeurant, c'est plus, ça utilise plus, mettons, de la science-fiction. Puis j'ai trouvé ça intéressant, Pascal, il parlait même, il faisait une comparaison avec les films de Jeunet et Caro, dans le fond, Délicatessen, puis La cité des enfants perdus. La façon que les personnages sont abordés, les décors qui sont vraiment, vraiment... c'est vraiment spectaculaire, là. Il y a rien qui est cheap dans le film. C'est du cinéma de genre de science-fiction québécois. Il y a rien qui feel cheap. Il y a rien qui dit c'est bon pour un film québécois. C'est juste bon tout court.
Exactement. Puis l'histoire, en gros, c'est trois
gars qui livrent des journaux, des publicsacs, des pamphlets publicitaires. Donc, c'est Rémi Girard. Il y a...
Michel Côté.
Michel Côté, j'ai un blanc. Puis David Lahaye, puis les trois ensemble, ils livrent des pamphlets publicitaires.
Leur boss,
David Lahaye, bon, c'est le petit jeune qui parle pas beaucoup, là, vraiment, il dit pas un mot du film durant les 30 premières minutes. Puis David Lahaye, lui, il sait pas trop quoi faire de sa vie, il est tanné de faire ça, puis il veut trouver quelque chose d'autre, fait qu'il s'en va dans une firme de médicaments pour suivre des tests. Puis il rentre là-bas, puis il se fait comme un peu interner, puis il se fait faire des tests, mais qui commence à le changer physiquement, puis ça dégénère un peu.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça tourne vraiment autour de ces personnages-là, mais c'est des personnages là vraiment plus gros, plus grand que nature, puis super, super caricaturaux. Le personnage de Michel Côté, il jouait là, vraiment avec un génie comique. Là. Mm. Chaque réplique qu'il dit, font rire. Puis, c'est vraiment quelque chose. Côté direction artistique, direction photo, ça m'a vraiment épaté. Je sais pas pour toi, Pascal.
Ah ouais, ben, complètement. Moi, c'est surtout que ce film-là existe au sein de notre cinéma québécois. Puis moi, en fait, je connaissais pas. Ben, je connaissais Yves Simoneau, mais de réputation, mais je connaissais pas. J'avais jamais vu aucun de ses films. C'était mon premier. Puis moi, je m'attendais à quelque chose, justement, comme tu as dit, pas de cheap, mais de, tu sais, ah, c'est bon pour un film québécois, ou ah, c'est intéressant pour un film québécois, tu sais. Là, non, effectivement, moi, ça m'a surpris. Dès les 10 premières minutes, j'étais comme, ce film-là, c'est pré-Délicatessen, puis c'est vraiment dans la foulée d'un film comme Brazil. Bon, est-ce que c'est aussi bon que Brazil? Peut-être pas, mais je veux dire, ça reste un film qui pâlit pas trop en comparaison de cette espèce de genre de cinéma-là, très axé sur la direction artistique, organique, avec des personnages plus grands que nature, loufoques, quelques personnages un peu plus lucides, mais dans une espèce de... un peu prisonnier d'un univers surréaliste dans lequel les personnages... avec des espèces de personnages qui sortent de BD, on dirait.
D'ailleurs, le casting, c'est assez incroyable.
Oui, ben oui, on a une espèce de Monique Mercure, justement, je parlais de Brazil, qu'on dirait quasiment la mère dans Brazil, tu sais, l'espèce de la femme là, qui se fait étirer, tout ça, là. On dirait que là, elle est vraiment... C'est peut-être chien, je suis désolé pour Monique Mercure si elle m'écoute. Là. non, mais c'est ça, avec les cheveux tirés vers l'arrière, puis une espèce de make-up weird. Marie Tifaut, dans un rôle d'une espèce de savante, ambitieuse, borderline folle.
Ouais, qui fume des cigarettes une après l'autre aussi. Là.
Tout le temps.
Aussi, d'un côté casting, ce qui est vraiment drôle, c'est il y a quelques comédiens qui apparaissent, mais qui n'étaient pas encore connus, comme il y a une apparition de Marc Labrèche.
Ah, ça a fait
donc, tu vois qu'ils sont vraiment allés chercher des visages. Tu sais, vraiment, Marc Labrèche a un visage assez particulier. Ils sont vraiment allés chercher pour ça. Il joue comme infirmier numéro 2, là, quelque chose comme ça. Là, il dit une phrase dans le film. Mais tu sais, en plus, dans la salle qui était pleine, ben, t'as un gros plan sur Marc Labrèche qui pointe, c'est attrapez-les, genre quelque chose comme ça, il pointe les gentils, attrapez-les, puis fait un infirmier un peu, un infirmier méchant, là, mais il était pas connu du tout, l'infirmier numéro 2. Puis là, ça crée vraiment des rires dans la salle parce que c'est Marc Labrèche, là. Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, en 89 avant qu'il soit connu? Pourquoi qu'il est là? Pourquoi qu'il fait ce rôle-là? Il y avait lui, il y avait même aussi, ben lui c'était plus un caméo d'après moi, une petite apparition, clin d'œil, mais il y avait comment est-ce qu'il s'appelle? Elvis Graton.
Julien Poulin.
Ah, Julien Poulin, c'est ça, Julien Poulin qui fait un garde de sécurité. Donc lui, sa petite apparition, c'est un petit clin d'œil. Donc il y a vraiment plein de petites surprises des acteurs qui sont castés puis qui apparaissent puis qu'on s'en attend pas là. C'est Marc Labrèche justement, ça c'était, je pense, que c'était vraiment un des highlights du film.
Puis l'humour fonctionne, hein. Je trouve que l'acting est particulièrement bon côté comique. Rémi Girard puis Michel Côté, c'est un excellent duo comique. Puis en fait, on parle d'un duo comique, mais moi je parlerais quasiment d'un trio comique avec le personnage interprété par Pierre Curzi, qui joue l'espèce de boss, comme le boss, mais tu sais, c'est une espèce de boss de coin de rue, là, tu sais, c'est comme genre, tu sais, une business de Publisac, mais il se la joue vraiment big, là, tu sais, il y a comme des bagues en or, puis tu sais, les cheveux crêpés vers l'arrière, puis c'est ça, il se la joue vraiment business, mais finalement, il se ramasse quand même dans la taverne avec les deux autres gars en train de boire, puis tu sais, il est aussi loser que les autres, finalement, c'est ça qui est drôle. Puis on sent que, des fois, ça brouille les cartes entre est-ce que c'est le comédien qui rit ou est-ce que c'est le personnage aussi. Parce que je pense que c'est pas un film qui avait vraiment de l'impro, mais je pense que les comédiens, ils avaient du fun pour vrai. Puis ça, c'est très communicatif. Puis des fois, moi à un moment donné, je pense que Michel Côté, là, il y a une scène à un moment donné où Rémi Girard, comme il lâche une coupe de crack, là, puis comme Michel Côté, il a vraiment l'air de trouver ça drôle pour vrai, là, tu sais. Mais je sais pas, on dirait que puis t'embarques dans cette espèce de folie-là, puis avec un scénario complètement over the top. Puis jamais cheap. J'insiste sur le côté jamais cheap. Écoute, t'écoutes ça, tu compares avec Brazil, tu sais, ça tient la route, là, complètement. Fait que chapeau à un film qu'on redécouvre.
Donc, dans Le Ventre du Dragon, Dave Simoneau sera disponible sur le service Illico de Vidéotron.
Ouais, Québec.
Sur DVD maintenant, Rémi, qu'est-ce qui sort cette semaine? Ou qu'est-ce qui sortait plus tôt?
Ouais, c'est ça, c'est mardi, toutes les sorties de mardi dernier, en fait. Il y a énormément de rééditions, donc je vais y aller vraiment en rafale. C'est beaucoup, beaucoup de rééditions en Blu-ray. Donc, Adventures in Babysitting, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, Cat in the Hat, Clue. Oui, le film de Clue en Blu-ray, moi, je suis vraiment content. Il y a The Code, Deep Blue Sea, Evan Almighty, Blue Harvest, le film de Family Guy, en fait, sur Star Wars. 5 Minutes of Heaven, Full Metal Jacket, Gross Point Blank, High Fidelity et Spaceballs. Donc, vraiment des belles rééditions cette semaine si vous voulez upgrader votre collection DVD, la passer en Blu-ray. Il y a quand même des nouveautés. Il y a de Lorax, il y a le documentaire sur Bob Marley qui s'appelle Marley, et Rio Grande qui sont les sorties des nouveautés. Et côté de télévision, il y a l'intégrale du Garfield Show. Donc, tous les épisodes de l'émission de Garfield que j'écoutais religieusement quand j'étais petit. The Looney Tunes Show aussi, il sort des nouveaux DVD. Et moi, je suis tellement heureux, mais Robot Chicken, la saison 5. Si vous ne connaissez pas Robot Chicken, il est temps que vous achetiez une saison, n'importe laquelle. Il n'y a pas d'ordre dans les épisodes. Vous écoutez n'importe quel épisode. C'est toujours drôle, Robot Chicken. Donc, la saison 5 qui sort cette semaine.
Oh, yeah. Parfait. Et en salle, Pascal?
Un immense week-end, parce que là, je pense que ça fait assez longtemps que The Dark Knight est sorti. Fait que tout le monde repoussait jusqu'à vendredi le 10 août. Je pense que là, c'est ça, là, vraiment, là, les gens, ils se sont dit « on sort rien, ça va être Batman ». Puis là, tout sort en même temps, parce que définitivement, c'est un immense vendredi. Écoute, bon, d'un côté un peu plus indie, international, ben c'est pas indie, là, mais international plutôt, il y a Guilty of Romance de Shion Sono, dont j'ai parlé à maintes occasions, que je conseille énormément. Il va être à l'excentriste, notamment Guilty of Romance, le titre du film. À voir, vraiment, là, c'est un super beau film. Cela dit, c'est une version de 1h53 qui sort, et la version que j'avais vue au Festival du Nouveau Cinéma l'an passé est une version de 2h10. Donc, c'est une version probablement internationale, trimée, donc coupée. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été coupé, parce que je trouvais que le film avait un beau flow. 2h10, c'est peut-être un peu long, je sais pas trop pour la distribution internationale, mais ça me fait lever le sourcil un peu de voir que le film était quasiment 20 minutes, était 20 minutes plus court que ce que j'avais vu au FNC. Ça m'étonne. Il y a Killer Joe de William Friedkin, le film avec ce fameux film avec Matthew McConaughey, c'est un tueur en série. Il y a le film La Campagne, justement, de Jay Roach avec Zach Galifianakis et Will Ferrell. Il y a The Bourne Legacy qui sort vendredi. Il y a le film Ruby Sparks de Valérie Ferris et Jonathan Dayton, dont on avait parlé de la bande-annonce. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment intéressant, vraiment drôle, en fait. Donc, avec Paul Dano et Zoé Kazan. Et il y a sur la piste du Marsupilami de Alain Chabat avec Jamel Debbouze. Il y a le film L'Incrédule de Federico Hidalgo, qui est un professeur à Concordia que j'ai eu en scénarisation. Donc ça, je suis curieux de voir ça. C'est sûr et certain que je vais aller voir le film. Et finalement... Ben non, OK, il n'y a pas de finalement. Excuse-moi, ça tombe un peu en queue de poisson. J'ai fait le tour, mais on parle quand même d'un gros week-end. Je pense que tout le monde va pouvoir retrouver son compte.
C'est ça, il y en a un peu pour tous les goûts.
Oui, vraiment. Vraiment.
Donc, on va se laisser justement sur la bande-annonce de Born Legacy de Tony Gilroy, quatrième volet de cette franchise, qui est maintenant réalisée par celui qui a écrit les scénarios de tous les films Born. Mon nom est Paul Landreau et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante. Welcome to the program.
Jason Bourne was the tip of the iceberg.
Who the hell is he?
He's an outcome agent.
He's Treadstone without the inconsistency. We have never seen evaluations like this.